la nuit.
Réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
6h-10h sur Radio Lac. Mais c'est quoi le Lac?
Carole, tu nous emmènes aujourd'hui dans les méandres des réseaux sociaux.
C'est ça, exactement. Je suis tombée hier sur Instagram, sur le profil d'une copine, Fabien, que je salue d'ailleurs. Salut Jess. Toi, la maman de deux enfants en bas âge qui les aime profondément, mais qui, chaque matin, est au bout de sa vie, clairement. Hein, je pense que l'expression « vivement ce soir que je me couche » a été inventée par une maman, hein, en bout de course, bien sûr. Alors ma Jess, elle assume être fatiguée, hein, et elle partage le profil du profil maman épuisée. Voilà, un poste qui me fait sourire un temps, il me rappelle des choses, à savoir, c'est une maman qui dit à son enfant « Va t'habiller mon petit chat, il est l'heure de partir à l'école. » Ce à quoi l'enfant répond « D'accord maman !» Avant de lire la phrase d'un narrateur juste au-dessous qui ajoute « Il est évident que l'enfant faussement docile n'a pas la moindre intention de se préparer avant que sa mère ne passe du côté obscur de la force et se mette à hurler telle une psychopathe prise de démence. » Voilà, ce poste partagé par Jess avec une petite pension. Alors je ne suis pas la seule du coup, voilà. Alors je m'intéresse à ce profil, parent épuisé, je dis tiens, je vais aller voir ce que c'est Fabien. Ouais. Alors je clique et tout, et je vois que toutes les Instamamas que je connais suivent ce profil. Tu sais, ces mamans qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à dire « Non, mais les enfants sont incroyables, quoi. Moi, c'est viscéral d'être maman. Oh, mais l'amour que je lui donne, mais il me le rend à 1000%. Et puis, c'est si pur, l'amour d'un enfant. » Ou alors les autres qui disent « Non, mais avec le code promo BB20, vous allez pouvoir, en fait, profiter de moins 20% sur les couches. Rappelez-vous, BB20. Mais dans ta gueule, le code promo, en fait. Voilà, moi, je suis sur le profil maman épuisée. Et en fait, tu le suis, t'es au bout du roule, à vous. Voilà. Je vous ai cerné. Mais tu vois Fabien, voilà, juste ce matin, je ne voulais pas juste accuser comme ça. J'ai la solution pour vous les mamans.
Très bien.
J'ai une solution, j'apporte toujours une petite solution quand même. Ouais. Si vous êtes maman, au bout du rouleau, si vous êtes fatiguée, si vous êtes au bout de votre vie, il y a toujours une solution Fabien, c'est quoi?
Je sais pas.
La garde alternée, voilà, tout simplement. Je vous ai trouvé la solution, voilà, comme ça vous serez épuisé, certes.
Et ça tu confirmes, ça marche bien.
Mais en semaine B seulement, voilà, effectivement je vous confirme.
C'est quoi ça le hic? Et c'est à retrouver. Les bons conseils de Carole pour régler ses petits problèmes quotidiens.
Vous ne serez plus au bout de roule, en tout cas une semaine sur deux.
Radiolac.ch.
Tous les week-ends,
réécoutez vos émissions préférées sur Radiolac.
Hold on all night.
sur Radio Lac.
Bonjour Pierre-Yves Bovini.
Bonjour Sophie.
Maître d'enseignement à l'EPIA, aujourd'hui c'est vous qui êtes avec moi et on va parler de la musique qui vient des champignons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Mais vous avez fumé les champignons, c'est pas possible.
On les mange les champignons, on les fume pas.
On peut les fumer, non? Ah, ça n'existe pas. Alors vous voyez comme quoi j'y connais rien en drogue.
Les hallucinogènes,
on les mange.
Je crois qu'ils se mangent les psylos. Non, alors là, même sans avoir mangé de champignons, ouais, ou sans avoir fumé de plantes bizarres, les plantes nous étonnent toujours.
Ouais, oui, c'est
parce
sûr.
Que la presse, les médias nous apprennent que depuis quelques temps, des gens font de la musique grâce aux plantes, en extrayant, si on veut, les sons que les plantes produisent. On peut faire de la musique électronique.
D'accord.
Il y a apparemment un compositeur canadien assez connu qui arrive à faire de la musique électro grâce notamment à des champignons, mais pas uniquement, des pleurotes, des chanterelles, des kiwis, des laitues, des carottes et même des fleurs.
Non, mais attendez, c'est un musicien, il fume forcément des trucs bizarres.
C'est pas impossible, mais les plantes l'aident quand même, parce que pourquoi? Pourquoi les plantes peuvent nous produire de la musique? Parce que les plantes sont continuellement, comme tous les êtres vivants, comme vous et moi, traversées de signaux électriques.
D'accord.
Donc il y a, les plantes, on rappelle toujours qu'elles ne peuvent pas naturellement s'enfuir, elles ne peuvent pas parler, elles ne peuvent pas crier, mais par contre elles ont plein d'autres stratagèmes, notamment le fait de pouvoir s'informer entre les différentes parties des plantes par des courants électriques qui sont en fait des flux d'ions. Ça veut dire en fait des atomes qui ont une certaine polarité vont changer, alors c'est un peu technique, la polarité de la membrane des cellules. Bref, tout ça, ça fait des informations dans la plante. Et pourquoi les plantes produisent des signaux électriques? Eh bien, on l'a dit, pour informer des parties, mais surtout pour arriver à s'adapter à son environnement, s'adapter à des stress. Ça veut dire que quand la plante décèle tout d'un coup, soit un ravageur, un être qui ne veut pas du bien, qui apparaît, ou des conditions climatiques qui changent brutalement, eh bien la plante va produire ces signaux électriques de manière à faire modifier ses organes, à modifier son comportement. On a vu que par exemple, elle pouvait réduire leur stress, parce qu'on parle de stress des plantes, et augmenter de plus de 12% leur rendement grâce à ces signaux. Alors comment est-ce qu'on passe d'un signal électrique d'une plante à
de la musique,
grâce,
savoir,
comme bien souvent maintenant, à l'intelligence artificielle.
Ah bah dis donc, incroyable.
En gros, on capte ces signaux électriques, et puis des algorithmes les décodent de manière à en faire de la musique. Mais pas uniquement, il y a d'ailleurs une entreprise suisse qui est pionnière dans ce qu'on appelle l'électrophysiologie, le fait de capter les signaux des plantes, mais de tout arbre, de toute plante, on met des capteurs, et avec ça, on peut essayer d'anticiper les problèmes des plantes. En gros, une plante, avant d'avoir un problème important, elle va crier. Elle va faire des signaux électriques, elle va s'exprimer pour dire « attention, j'ai soif, attention, j'arrive plus à pousser, attention, il me manque des sucres ». Voilà, ce genre de choses comme ça. Donc on peut le capter par des signaux, par des appareils. Les algorithmes décodent ça sous une forme, je dirais, de langage familier. Mais si on le décode différemment, on peut en faire carrément de la musique.
Est-ce que vous avez réussi à écouter?
Mais oui, si on tape le nom de ce compositeur canadien notamment, un monsieur Taillard Numard, on trouve sur Internet des compositions de musique qu'il nous produit.
On peut écouter?
Mais avec plaisir.
Allez-y,
voilà.
Allez-y, ça vient de votre téléphone. Il fait ça avec des champignons.
Alors, il y a même une vidéo où on voit, alors naturellement...
Comment il s'appelle le monsieur?
Taillard Numard.
Ouais.
Et on voit même qu'effectivement, il touche parfois le champignon ou des effleurs.
Ah ouais? D'accord, ok.
J'écouterai
pas ça pendant 2 heures, hein, je vous le dis tout de suite. Merci beaucoup, Pierre-Yves.
Le meilleur de Lac, en replay
sur la nouvelle application Radio Lac. I'm not afraid to
Caléidoscope de Fabien et Carole.
Et dans l'étude du jour, Carole, il est question de relations de couple avec un syndrome, paraît-il.
Oui, c'est ça. C'est quand la relation de couple, elle se transforme. C'est le syndrome de la colocation.
Ah, tu veux dire quand il n'y a plus vraiment d'intimité dans le couple et que finalement, on est là juste pour partager un appartement ou une maison et puis les factures.
Exactement, c'est bien ça. Hein, et pour le coup, c'est un vrai syndrome expliqué par des sexologues. Oui, le syndrome de la colocation existe. Alors généralement, il intervient après quelques années, quelques mois peut-être, hein, dans le pire des cas, de couple. En attendant, c'est véritablement, oui, partager les factures, la gestion des courses, le programme Netflix et pas vraiment les moments de complicité et d'intimité. Chacun gère sa petite routine de son côté. Les potes, les hobbies, le boulot, hein, on se croise pour parler de sujets assez chiants. Est-ce que tu peux sortir les poubelles? Est-ce que tu as pensé à payer cet impôt, hein? Bref. Et puis le gamin, tu l'as inscrit à la crèche? Voilà, c'est un petit peu ça, hein, pour le coup. Mais le vivre ensemble et surtout les moments d'intimité n'existent quasiment plus.
Bah, ce qui reste, ce sont les moments, on va dire, un peu les petites choses du quotidien.
C'est-à-dire,
comme tu dis, les factures, les choses un peu dont on ne peut pas se débarrasser comme ça. Mais il manque finalement tout le côté sympa de la relation, c'est-à-dire partager des choses, vivre des choses épanouissantes, du rire, des bons moments, c'est ça finalement qui manque.
C'est exactement ça, hein, le syndrome de la colocation, et les sexologues d'ailleurs sont unanimes, hein, on va pas se mentir, hein, l'affection, les baisers, les câlins, on en a besoin. À partir du moment où dans un couple il y a plus trop d'affection, il y a plus de baisers, il y a plus de câlins, eh bien c'est là que le syndrome de la colocation va commencer insidieusement à se mettre en place. Au début, on ne le sent pas arriver. Et puis, au bout de quelques années, en fait, on ne gère plus que les trucs vraiment très routiniers.
Ouais, le quotidien.
Et puis, le quotidien, voilà. Et forcément, c'est là que le bas blesse. Alors, est-ce que le syndrome de la colocation, qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais je t'écoute parce que je pense forcément à des gens qui sont en train de nous écouter, qui vivent cette histoire de coloc.
Moi, je l'ai vécu, clairement. On l'a tous vécu au moins une fois. Dis-moi que tu n'as jamais vécu le syndrome de la colocation. Vraiment.
Je ne le dirai pas.
Menteur.
Non, mais si, on l'a forcément.
Bah oui.
Toutes et tous un peu.
Bah oui,
c'est un peu la fin d'une histoire, quand même, le syndrome de colocation.
Hein. C'est un peu le problème. Alors, sauf que le syndrome de la colocation, c'est pas réellement la fin. Enfin, si t'as vraiment envie de t'en sortir, tu peux véritablement t'en sortir. C'est pas une condamnation à vie.
On peut casser cette routine.
Tu peux casser la routine. Alors, tu peux, et selon les sexologues, commencer par, forcément partager les choses.
Ouais. Commencer par, si les sexologues s'intéresse à la question, on peut peut-être commencer par tu vois ce que je veux dire,
par faire l'amour,
par exemple.
Oui, par exemple,
ça peut peut-être réunir le couple.
Il n'y a pas que ça dans la vie. Les sexologues l'expliquent très très bien dans le syndrome de la colocation, parce qu'il y a aussi des gens qui souffrent de la syndrome de la colocation et qui font régulièrement l'amour.
Oui, donc finalement ça n'empêche pas.
Bah oui, ça n'empêche pas. Par contre, et je le rappelle, c'est véritablement les câlins, les bisous, etc., qui sont importants, et puis l'affection, et puis se soucier de l'autre, tout simplement.
De la complicité
et puis de la communication, bien sûr. Alors, pas de grands projets compliqués pour péter ce syndrome. Commencez par un petit dîner qu'on partage tous les deux. On laisse les enfants vraiment à une babysitter. Hein. La balade, ou même juste un café en tête-à-tête. Hein. Si on a une petite demi-heure entre midi et deux ou une heure, eh bien on va voir son conjoint et on fait un petit café, etc. On partage des choses. On fait autre chose que de se voir à la maison et de parler de factures.
Changez votre quotidien pour briser cette routine et éviter ce syndrome de colocation. Vous pouvez réagir évidemment à tout moment sur le WhatsApp de Radio Lac, 079 91 8 3000.
Le meilleur de Lac en replay sur radiolac.ch. You're
victim of broken heart. Who knows, but you know now that all you ever try or do won't change the beat of my mind. I'm on the highway without bounds, happy all the way through. To me.
Radio Lac, il suffit de demander.
Avec Hazard Tabazian, c'est la cuisine d'Hazard, comme tous les mardis sur Radio Lac. Bonjour Hazard.
Bonjour Sophie, comment ça va?
Ça va bien, on parle de quoi aujourd'hui?
On parle des aubergines.
Ah, j'adore les aubergines.
Vous savez que c'est un légume que j'aime beaucoup, je vous en parlerai encore la semaine prochaine.
Oui.
Et
un petit coucou à vos origines iraniennes quand même.
Aussi,
c'est
oui.
C'est très important quand même.
Oui, oui. Alors l'aubergine, il y a une façon que j'aime bien faire, c'est la couper en dés. Mettre un peu de sel pour laisser dégorger, on essuie l'eau, on fait chauffer un peu d'huile dans une poêle et on met à cuire nos dés d'aubergine. Au bout d'un moment, vous ajoutez juste un petit peu d'eau. Comme ça, ça évite de mettre trop d'huile. Parce que l'aubergine mange l'huile.
Bien sûr, ça devient gras.
Ça le rend
c'est
après,
pas,
c'est trop
c'est
gras.
Pas agréable. Ouais.
Donc moi, j'aime bien cette petite astuce de mettre un petit peu d'eau. Ça évitera de rajouter trop de matière grasse. Et vous servez ça sur une salade de mesclun avec du fromage de chèvre, des oignons rouges, des tomates cerises. Le poivre, très important,
poivre. Oui, s'il vous plaît.
Et un petit peu de fleur de sel. Vous verrez, c'est délicieux.
Merci pour cette recette. C'est Hazard Tabazian tous les mardis dans Il suffit de demander, à retrouver dans la page, sur la page de Il suffit de demander, radiolac.ch, onglet émission. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Toute la nuit, réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac. Things that we used
Sur Radio Lac, retrouvez-moi sur Maman Pourquoi, le podcast éducatif et rigolo qui répond à tous les pourquoi.
Pourquoi ?
Et les comment de nos petits curieux.
Comment ?
Maman Pourquoi, c'est tous les mercredis sur vos plateformes préférées, sur le site et l'application Radio Lac.
Pour un voyage dans le temps, Carole, ce matin, direction les années 70. Oui, ça me met en joie. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de cette mode où la mode s'écrivait, de cette époque où la mode s'écrivait en grand et en large, avec notamment le célèbre pantalon pas de def.
Oh, le pas de def, bah, oui. Le pas de def qu'on a tant mis, c'est vrai, hein, dans les années 70.
Ouais, c'est ça, t'en as un dans ta garde-robe.
Alors, moi j'en ai eu un dans les années 90, ouais. Pour le coup, parce que bah, forcément la mode est un éternel recommencement, donc tous les 20 ans on le voit arriver.
C'est
hein.
Ça, il revient régulièrement, c'est le ça, pantalon hein, pas de def.
C'est ça, et,
fait, ouais.
Et pour le coup, là, je dirais pas de def, je dirais pantalon évasé.
Ouais, bon.
Je dirais pantalon évasé, c'est pas pareil.
Pas hein, tout parce à fait que la même chose,
les
effectivement.
Les vrais pas de def ouais. Des années 70, c'était quand même quelque chose. Hein.
Imaginez-vous, rappelez-vous à cette époque une taille haute bien cintrée pour souligner la silhouette et dès les cuisses, une explosion de tissu qui s'élargit jusqu'à balayer le sol. Les pattes d'éléphant étaient partout, dans les discothèques, sur les podiums et même au bureau. Ouais, c'était la classe avec un grand C, évidemment. Plus c'est large, plus c'est sympa.
Plus c'est bon.
Et plus c'est mode.
Ouais,
je ne sais pas si c'est vrai pour tout, mais... Ces pantalons étaient bien plus qu'un vêtement, c'est une déclaration de liberté inspirée par la culture hippie, parce que c'est de là qu'il vient le pantalon pas de def, de chez les hippies.
C'est ça, les Flower Power.
Exactement, ils incarnaient l'anticonformisme et le désir de briser les codes rigides des décennies précédentes. Et pour parfaire le look, ils se mariaient souvent avec des chemises à fleurs, des vestes en velours côtelées ou des ceintures XXL.
C'est exactement ça.
Voilà, c'était vraiment le look complet. Parce
le blazer très cintré, le pantalon pas def, au final, le début très cintré, et après, paf, ça partait évasé, et c'était quelque chose, on aurait dit une collerette d'animal.
C'est ça, exactement. Et dans l'ambiance disco, il y avait même ces chemises, ce qu'on appelait les cols pelatardes, qui cartonnaient. Alors, parmi les icônes de l'époque, comme les Jackson 5 ou ABBA, qui en ont fait des tenues absolument fétiches, les transformant en symbole de la pop culture, et qui pouvaient résister au charme de leur mouvement fluide sur une piste de danse. C'est vrai qu'il y avait un côté, tu vois, très, très aérien, finalement, à la manière des Bee Gees ou de Donna Summer, qui était grande amatrice, justement, de pantalons pas de def. Ça demandait quand même un certain talent, porter des pas de def, entre le risque de trébucher sans coubler, finalement, ou la nécessité d'un bon coup de repassage. Forcément, t'avais plus de tissu.
Ah oui,
donc, il fallait repasser un peu plus. Ouais. Voilà, c'était donc une affaire sérieuse. Il fallait aussi des chaussures adéquates, parfois même les chaussures plateforme, pour ne pas être englouti dans ce tissu, cette tente finalement.
Oui, et puis il ne fallait pas qu'il pleuve, parce que quand il pleuvait, malheureusement, tu avais le tissu qui était complètement humide, et ça remontait par capillarité jusqu'à tes genoux, tu vois.
Terrible.
Ouais, c'est fou. Hein.
Le pas de def, qui, on le disait tout à l'heure, revient régulièrement à la mode, et notamment qui se réinvente. On l'a vu il y a quelques années, modernisé, réinterprété. La preuve que certaines modes sont éternelles, même quand elles flirtent avec l'excès. Ce qu'on aurait pu se dire à l'époque du pantalon pas de def. Voilà de quoi replonger dans les années 70. Vous en avez peut-être encore dans votre garde-robe, peut-être même au quotidien.
Oui, bien sûr. Ouais. Vous avez peut-être même un pas de def ce matin. Mmh. Dites-nous tout par WhatsApp 079 918 3000.
Le meilleur de Lac en replay sur la nouvelle application Radio Lac.
suffit de demander.
Bonjour Marc-Antoine Bossart.
Bonjour Sophie.
Comment va-t-il ?
Il va très bien, oui, très je vous remercie.
Alors Marc-Antoine Bossart est avec moi tous les lundis pour parler de nos animaux, tous à poil, que ce soit des chats, des chiens bien sûr, du cabinet vétérinaire Les Sources à Genève, à Plainpalais précisément. On parle de quoi aujourd'hui ? Je crois qu'on s'intéresse à cette petite herbe horrible pour nos chiens, les épillets.
Voilà, épillère, ramoneur, il porte plusieurs noms. En fait, c'est la graine d'une herbe qui pousse, qui jaunit et qui fait comme un épi de blé. Ça ressemble fortement à quelque chose comme ça. Et puis, lorsqu'elle sèche, elle se détache par graines avec ces espèces d'antennes, ce qu'on peut comparer presque à un parapluie. Et végétalement parlant, elle est faite pour aller se replanter par le vent un petit peu plus loin. Et donc, l'apex est vraiment très pointu. De fait, il va pénétrer dans la terre et puis finalement refaire son cycle végétal. Mais ces épillets sont emportés par le vent et on voit que pour des raisons écologiques, on a renoncé un peu à tondre les pelouses par chez nous, si bien qu'il y en a alors à foison. Mmh. Et ces petits végétaux secs, encore une fois emportés par le vent, sont des plaies pour nos quatre pattes, principalement les chiens qui sortent. Eh bien, ils peuvent rentrer dans les oreilles, ils peuvent sniffer par le nez, puis ils peuvent s'introduire entre les espaces interdigités. Et à la consultation, on en a vu et on va en voir encore un certain nombre. Et comme ils ont souvent la même couleur que le pelage de l'animal, c'est assez difficile de les identifier. Donc c'est clair que si c'est dans l'oreille, le chien va secouer la tête et plus il secoue, plus le végétal va aller au fond pour aller voir, même percer le tympan. Plus il éternue, plus la partie végétale qui est dans le nez va pénétrer, faire saigner, infecter. Plus le chien lèche dans son espace interdigité, plus il rend la peau molle et perméable, et plus le végétal va rentrer carrément dans la chair. Alors, pour ressortir 2-3 semaines après par un autre endroit.
Quelle horreur ! En tant que maître, si on voit ça tout de suite, on peut le retirer tout seul ?
Non.
Si
on le voit dans l'espace interdigité, premier signe, léchage, il faut vite le retirer. Ouais. Mais s'il est dans le nez, ça va être très très difficile. S'il est dans l'oreille, il faudrait pouvoir l'identifier avant qu'il pénètre dans le conduit auditif. Oui. Parce qu'après, une fois qu'il est plus loin, eh bien, ça sera difficile. Là, c'est visite vétérinaire, identification du problème de l'oreille, puis parfois même jusqu'à sédation de l'animal pour aller retirer cet épillet. Quand c'est dans le nez, alors là c'est une endoscopie, rhinoscopie. Pour un petit végétal,
c'est beaucoup de choses.
Ça peut engendrer des choses épouvantables. Alors, donc attentif. Ouais. Dans ces périodes, je dirais même au niveau des pattes de pouvoir inspecter les espaces interdigités pratiquement après chaque promenade si on va dans un lieu à risque.
Bien noté en tout cas. Mm-hmm. Attention, vous consultez si vraiment on pouvait pas le retirer dans le nez, on peut pas le retirer, ça c'est sûr. À vous de voir.
Petit végétal et gros souci, exactement.
Consultez et observez votre animal, évidemment votre chien. Merci beaucoup Marc-Antoine Bossart.
Bonne journée.
À retrouver en podcast sur radiolac.ch. À la semaine prochaine.
Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch.
that has risen to be so. Yeah, yeah.
On va demander aux enfants qui sont peut-être dans la voiture avec vous de se boucher gentiment les oreilles pendant quelques minutes. Encore que,
ouais, on
parle
va,
de sexualité
on
le vendredi,
va rester
mais
tranquille,
on
hein.
va rester sage.
On va rester sage. Mmh. On va tout simplement parler de la durée idéale pour un câlin, tout simplement. Hein, la durée idéale. Alors, à ton avis, c'est quoi, Fabien?
Écoute, alors, si généralement on entend les hommes parler, ils
c'est
vont toujours
ça.
Se vanter que ça
c'est
dure des
ça.
Dizaines de minutes.
C'est
tout
fou,
ça, dans
hein.
la réalité, je pense que c'est un peu l'inverse. Mais réellement, je suis persuadée que la durée idéale n'est pas aussi longue qu'on imagine.
Exactement, c'est ça. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que si on se fixe aux mythes et aux légendes de sexualité, oui, t'as raison, ça devrait durer des heures. C'est un véritable, c'est une véritable épreuve olympique qui vous attend, en tout cas si vous voulez sortir la tête haute. Et ça, c'est très masculin. C'est véritablement
bien
ce
sûr.
Que les experts disent. Voilà, faut entraîner son cardio, votre respiration, devenir souple, étudier le Kama Sutra.
Ouais.
Mais tout ça, en fait, c'est du flan ou presque. Et là encore, les experts sont formels. Il y a une étude très sérieuse qui a été réalisée donc pour donner la durée idéale selon les hommes et les femmes. On a comparé tout ça, on a mis tout ça dans un sac et on a sorti une moyenne. Ça reste une moyenne, bien sûr. Alors attention, la réalité est très très différente puisque apparemment une enquête donc de spécialistes met en avant qu'un rapport considéré en tout cas comme satisfaisant dure entre 3 et 13 minutes.
D'accord, ah oui, donc c'est. Moi je pensais une dizaine de minutes.
Tout à l'heure, tu as mis le doigt dessus, tu m'as dit oh, 3 minutes. Eh bien oui, t'es dedans, entre 3 et 13 minutes. Alors en deçà, on serait trop court. Au-delà, eh bien pour beaucoup de personnes, ce serait déjà trop long. Une autre enquête d'ailleurs, prenant en compte cette fois les préliminaires, parce qu'on ne parlait pas de préliminaires, place la fourchette entre 5 et 20 minutes, pas plus. De quoi se rassurer, pas besoin de se préparer pour un marathon, pas besoin de mettre la barre trop haute, pas besoin de se mettre la pression. Un vrai rapport avec préliminaire devrait. Durer entre 5 et 20 minutes selon, on va dire, les hommes et les femmes.
Oui, puis ça dépend un peu du moment de la journée, ça dépend de si c'est la semaine ou le week-end, de si on a le temps, de si on bosse le lendemain
exactement,
matin.
Exactement, si t'as le temps devant toi,
ouais.
si tu travailles derrière, si t'es pressé, etc., etc. Ça dépend de plein de choses, ce genre de choses, mais apparemment, les experts sont formels. Tout le monde se met un petit peu la pression autour de
bah
ça.
Bah ouais,
même.
Mais il faut pas se mettre la pression, ça
exact.
Doit être que du plaisir. Moi, je dis un petit quickie, là, 5 minutes de temps en temps, c'est pas mal. Tu vois, juste
faut...
avant de s'endormir pour trouver le sommeil.
Exactement, il faut trouver son propre équilibre, il n'y a pas de règle, mais en tout cas, voilà ce que cette étude dit. Moi, je trouve que c'est le genre d'étude qui replace un petit peu les choses.
Bien sûr.
Et voilà, et le vendredi, c'est toujours bon à entendre.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
lie to you and you will see.
Stay in line. I gotta push myself to.
Sur Radio Lac, c'est du sport.
Et je dis bonjour à Patricia Bongini.
Bonjour Sophie.
Alors la course à pied et la pollution atmosphérique, est-ce vraiment bénéfique pour la santé d'aller courir comme on le fait presque tous hein, entre midi et deux ou le soir en sortant du travail quand on sait combien la pollution est importante dans nos villes?
Et oui, bonne question Sophie.
Merci.
On pense d'ailleurs très clairement se faire véritablement du bien physiquement en allant courir en pleine ville au milieu de la pollution à laquelle on ne pense pas assez souvent.
Alors, est-ce que les bienfaits du sport peuvent contrebalancer les effets négatifs de la pollution sur notre santé?
Alors, pour répondre à cette problématique, seules, je dirais, des études scientifiques hein, peuvent nous apporter un certain éclaircissement. Notamment, une étude très intéressante réalisée aux Pays-Bas qui a permis de mesurer l'exposition des sportifs en extérieur et en ville.
Alors justement, qu'en est-il de cette étude?
Alors, l'exposition aux particules fines réduirait l'espérance de vie de l'homme de 1 à 40 jours. Alors que, attention, la pratique du running, elle, ferait gagner entre 3 à 4 mois d'espérance de vie.
Bon, le constat est sans appel, quel que soit le niveau de pollution dans l'air, nous avons tous intérêt à aller courir pour améliorer notre santé.
Et oui, Sophie, l'activité sportive l'emporte clairement sur la pollution, ça c'est une bonne nouvelle.
Bon, alors, même lorsque l'on se trouve confronté à des pics de pollution quand même
Alors, dans cette situation, il faut absolument être plus vigilant et éviter de sortir courir quand les voyants sont au rouge vif, bien évidemment. Car on le sait, chaque année, 1,3 million de personnes meurent à cause de la pollution dans le monde.
Ça fait froid dans le dos quand même. Hein.
Oui, exactement. Alors, il faut autant que faire se peut, privilégier les sorties très tôt le matin ou très tard le soir, avant, par exemple, les horaires de trafic routier où la pollution atteint malheureusement son apogée.
Oui, alors pas toujours facile à concilier avec un emploi du temps, bien sûr.
Juste. Alors, peut-être une autre solution qui peut être intéressante, notamment à Genève, nous sommes quand même bien lotis au niveau des parcs. Alors, allons courir dans les parcs de la ville, si possible, ceux qui se situent loin des axes routiers, pour respirer, bien évidemment, un air beaucoup plus pur pendant l'effort.
Oui, alors Patricia, est-ce que ces espaces de verdure réduisent beaucoup la pollution atmosphérique?
Alors, oui, je peux dire que oui, car les arbres ont une capacité à stocker le carbone, ce fameux CO2 dont on parle souvent, et à absorber les particules fines, et ainsi réduisent la pollution et améliore la qualité de celle-ci.
Et quels sont les arbres qui absorbent le plus la pollution? Je vous pose des questions ce matin.
Oui. Non, mais c'est intéressant. Plusieurs arbres sont réputés pour absorber la pollution, mais celui peut-être que l'on connaît le mieux dans nos contrées est le bambou, qui n'est malheureusement pas très répandu dans les parcs.
Ouais, ça c'est sûr. Bon, alors la meilleure solution reste peut-être d'aller courir dans nos belles campagnes avec un air beaucoup plus pur, n'est-ce pas Patricia?
Alors, eh bien, ce n'est pas si évident que cela.
Ah bah.
Voire contre-intuitif, Sophie, je suis navrée, car la pollution chimique, telle que les pesticides, les produits phytopharmaceutiques ou la pratique de l'épandage, hein, c'est d'émettre des produits sur les terrains, émettent elles-mêmes des particules fines particulièrement nocives. Donc, on serait beaucoup mieux inspiré d'aller courir en forêt, là où les arbres sont nombreux et traitent l'air pollué.
Moi, mon rêve, c'est d'avoir un super tapis, vous voyez, à la maison, un super truc, un truc pro, hein, comme dans les salles. Hein,
bien sûr.
Et puis je cours chez moi, tranquille. Ça, je m'en fous du temps à l'extérieur, je fais ce que je veux. C'est le bonheur, non?
C'est presque le bonheur, mais la nature, sa ressource aussi.
Je suis d'accord avec vous, on a besoin de cette nature. Merci Patricia, vous venez dans 15 jours.
Ben oui, dans 15 jours, avec plaisir.
À tout bientôt, et on se retrouve en podcast sur radiolac.ch. Merci.
Merci.
Le meilleur de Lac, en replay,
sur la nouvelle application Radio Lac.
Summertime, the weather's fine. Smile on my face, the girl is mine. I'm happy, so happy. The ring in my pocket, I'm set to go. Marry the girl, cause I love her so. Happy, I'm happy. Just build a place called home. I never
Radio Lac, retrouvez-moi sur Maman Pourquoi, le podcast éducatif et rigolo qui répond à tous les pourquoi.
Pourquoi ?
Et les comment de nos petits curieux.
Comment ?
Maman Pourquoi, c'est tous les mercredis sur vos plateformes préférées, sur le site et l'application Radio Lac.
My confidence has grown.
everything is gone. And every step I take